Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau de Notre Bien Commun, Stéphane Aubugeot, et je reçois Monseigneur Laurent Camiade. Après un cycle d'émissions sur l'Église et les droits de l'homme et une émission intermédiaire sur l'exhortation à Maurice Laetitia, Monseigneur Laurent Camiade initie aujourd'hui un cycle de 3 émissions sur la liberté religieuse. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Stéphane.
Il n'est pas courant de présenter la liberté religieuse et le dialogue interreligieux parmi les thèmes de la pensée sociale. De nombreux textes du Concile Vatican II entrent dans cette perspective. Ainsi, Gaudium et Spes affirme au numéro 23 que le dialogue fraternel des hommes ne trouve pas son achèvement dans la seule multiplication des relations permises par le progrès technique. Mais ce dialogue fraternel trouve son achèvement plus profondément dans la communauté des personnes et le respect réciproque de leur pleine dignité spirituelle. Et l'idée aujourd'hui est de présenter la déclaration du Concile sur la liberté religieuse Dignitatis Humanae. Cette déclaration prolonge un peu la constitution pastorale Gaudium et Spes. Le fait religieux est présent depuis toujours dans l'histoire humaine. Monseigneur, pourquoi s'est-il imposé au pape et au père du Concile de faire, en cette fin du XXe siècle, cette déclaration sur la liberté religieuse ?
Alors, je ne suis pas historien du Concile, donc je n'ai pas toutes les clés peut-être pour dire pourquoi ça s'est imposé, mais il me semble que c'est bien sûr le contexte qui est derrière, et je pense en particulier le contexte de l'après-guerre de 39-45. La relation de l'Église avec en particulier la religion juive ou d'autres religions a été mise en cause dans le fait qu'il y avait pu y avoir chez les chrétiens une certaine complicité avec ou en tout cas une complaisance ou quelquefois en tout cas une incapacité à réagir suffisamment face à la persécution des juifs dans le régime nazi. Et il y a eu aussi dans ce contexte-là évidemment toute cette violence faite à une communauté de croyants. Et puis c'est aussi la même époque où on a découvert la violence qui existait, tous les martyrs du communisme. Donc la question de savoir si on a la liberté ou pas d'exercer son culte, tant dans le regard que l'Église peut porter sur d'autres religions que dans le regard porté par des sociétés, des pouvoirs, des idéologies sur les chrétiens, sur l'Église, demande à être repensée. Et je pense que cette réalité historique est à l'origine de cette déclaration, de cette réflexion nécessaire au moment du Concile, où on s'est dit il faut quand même qu'on pense les choses autrement que dans la vision un peu défensive de dire hors de l'Église, point de salut, et la seule religion vraie, c'est la religion catholique, ce que l'Église croit malgré tout, mais c'est pas suffisant pour défendre le fait, d'une part, notre droit d'exister au milieu d'une société humaine et avec des idéologies qui la traversent et qui sont pas forcément conformes à l'Évangile, qu'on le veuille ou non, et également la diversité, la multiplicité des religions dans le contexte d'une société où tout le monde est en relation avec tout le monde. Alors il faut poser un peu ces relations-là et voir quel est le statut de l'Église. Et donc voilà, comment ce que l'Église défend, c'est que tout homme puisse chercher Dieu librement exercer une liberté de religion, et notamment ça permet face à des régimes qui ne reconnaissent pas le christianisme de dire aussi non, nous avons le droit d'exister, tout homme a cette liberté là et défendre cette liberté là.
Cette déclaration donc permet d'entrer en relation avec les gouvernements séculiers, qu'ils soient pluralistes ou officiellement catholiques. Et donc a permis une nouvelle, on va dire, relation entre l'Église et des États. Dans le petit livret du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, les évêques notent que le fait religieux peine à trouver sa place dans la simple culture de l'individu et du citoyen. Je cite la page 61. Plus encore, certains ont du mal à considérer que le religieux est quelque chose de positif à apporter à la vie en société, et doutent que la religion soit un élément qu'on ne peut négliger pour la bonne santé du corps social. Alors, faut-il renoncer à promouvoir la liberté religieuse si nos concitoyens sont remplis de doutes?
C'est pas parce que certains n'y croient pas que on peut pas la promouvoir, et même qu'on ne doit pas la promouvoir. Alors c'est vrai que le fait religieux dans la société moderne est aussi objet aujourd'hui de suspicion pour plein de raisons, mais on est aussi, en tout cas en France, dans une société qui a l'idée de la laïcité. Et donc, la laïcité, alors elle peut être comprise d'une manière très fermée, dans le sens de ne pas donner la parole aux convictions religieuses et enfermer toute expression religieuse dans la sphère privée. Mais ce n'est pas ce qui est dans la loi en France, et ce n'est pas ce qui est reconnu normalement. La laïcité, c'est plutôt la garantie de la liberté de culte, précisément en France, avec aussi la préservation de l'ordre public. C'est-à-dire qu'une religion peut exercer son culte librement tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Donc quand on demande à faire une procession dans les rues d'une ville, par exemple, le maire doit veiller à ce que cette procession ne trouble pas l'ordre public. Et si c'est le cas, en principe, il donne toujours l'autorisation. Voilà. Après, c'est faut voir quelle est l'opportunité de cette procession dans les rues, mais la loi française garantit cela, et c'est lié vraiment à la liberté religieuse, à la liberté de culte.
Pas de procession sur le périphérique de Toulouse.
Ça pourrait troubler l'ordre public, en effet. Voilà. Et puis, mais même au-delà, si on fait une manifestation religieuse qui devient violente ou qui soit de l'ordre du prosélytisme, ça peut, d'une certaine manière, troubler l'ordre public. L'intervention de, par exemple, de certaines sectes ou de certains groupes, on dit plus sectes maintenant, on dit mouvements avec des dérives sectaires, dans les hôpitaux est quand même très surveillé, parce que on a affaire à des personnes fragiles, faibles, et c'est facile d'abuser de l'attitude au contraire des aumôniers, des aumôneries est extrêmement vigilante sur le respect de la liberté de conscience des personnes vers qui on s'oriente, parce que quand on fait des visites systématiques dans les chambres, il faut pas s'imposer ni imposer notre manière de voir. Et voilà, dans la déclaration Dignitatis Humanae du Concile sur ce sujet, il est bien précisé à propos de la liberté des groupes religieux, au paragraphe 4, que les groupes religieux ont le droit de ne pas être empêchés d'enseigner, de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit, mais dans la propagation de la foi et l'introduction des pratiques religieuses, on doit toujours s'abstenir de toute forme d'agissement ayant un relent de coercition, de persuasion malhonnête ou peu loyale, surtout s'il s'agit de gens sans culture ou sans ressources. Une telle manière d'agir doit être regardée comme un abus de son propre droit et une entorse au droit des autres. Donc le texte du Concile, finalement, est tout à fait dans la même vision de la laïcité, même si le mot n'y est pas employé, que celle de l'État français, dans le sens que la liberté religieuse atteint sa limite si elle ne respecte pas les personnes, et si elle trouble quelque chose non seulement dans l'ordre public, mais aussi dans le respect des consciences.
Merci. Le mot vérité est présent plus d'une vingtaine de fois dans la déclaration. Et comme vous l'avez évoqué, si nous prenons par exemple le paragraphe 3, la déclaration dit que la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l'enseignement ou de l'éducation. Alors que certains ont vu dans la déclaration d'Initiatis Humanae la promotion d'un relativisme, il y a cependant des phrases fortes à l'encontre d'une telle vision. Et cette déclaration, toujours dans l'optique de promouvoir la recherche de la vérité, dit par exemple que, au numéro 1, « Dieu a lui-même fait connaître la voie par laquelle les hommes peuvent obtenir le salut, cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique. » Alors comment comprendre cette phrase ?
Bien oui, enfin, la phrase est assez claire, il me semble. C'est bien une affirmation que le Concile ne renie pas du tout la vérité à laquelle l'Église croit, c'est-à-dire que nous sommes sauvés par le Christ et que ce salut s'accomplit dans la prolongation de l'œuvre du Christ qui est l'Église, et que l'Église catholique est le lieu où subsiste l'Église du Christ, donc l'œuvre de salut total du Christ. Alors cette formule, ce petit mot subsistit in dans le texte du Concile, on le trouve deux fois, on le trouve aussi donc dans Lumen Gentium sur l'Église, mais dans Lumen Gentium il est dans un contexte où l'Église est affirmée comme le lieu du salut, mais en même temps pour dire aussi comment s'articule avec ce subsistit in, donc l'Église du Christ qui subsiste, le royaume de Dieu qui subsiste dans l'Église catholique, et le rôle des religions chrétiennes non catholiques, donc orthodoxes, protestants. Donc c'est l'introduction un petit peu de la réflexion sur l'œcuménisme, sur la manière de reconnaître les œuvres de salut accomplies par d'autres communautés chrétiennes non catholiques. Et on a souvent commenté ce subsistit in en disant, ben voilà, c'est une formule pour ouvrir le sens de l'Église catholique aux autres confessions chrétiennes. Alors que ici, dans ce contexte, le subsistit in est plutôt dans le sens de l'affirmation de la vérité contenue dans la religion catholique. Alors c'est intéressant de voir que justement ce subsistit in, il dit à la fois une ouverture et à la fois une affirmation forte de ce qu'est la conviction de l'Église de se recevoir du Christ pleinement et d'accomplir l'œuvre du salut. Ce qui veut dire que la recherche de la vérité, elle est reconnue pour tout homme comme légitime, mais que l'Église ne cesse pas de dire que cette vérité se trouve dans la découverte du Christ à travers l'expérience de l'Église.
Alors justement, toujours dans ce paragraphe, dans ce premier paragraphe de la déclaration, il est dit « La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. » Et donc j'en viens un petit peu au thème d'une émission, c'est quel est le moyen que promeut l'Église pour que la vérité pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance? Eh bien, ce sera le dialogue.
C'est oui, certainement, puisque c'est un sujet qui sera abordé dans d'autres émissions, une autre série d'émissions, je pense.
Oui, nous allons l'aborder avec le père Bertrand Cormier.
Voilà. Mais c'est vrai que le texte nous dit bien. Le dialogue est un moyen pour chercher la vérité. Mais ce sur quoi le texte insiste, c'est aussi de nous dire que nous avons ce devoir de chercher la vérité. Et que tout homme a ce devoir, que la dignité de l'homme, c'est de chercher la vérité, l'ayant trouvée, il ne suffit pas d'être toujours en recherche, et on peut trouver quand même cette vérité, et quand l'homme la trouve, eh bien il est tenu aussi d'en vivre, et d'y être fidèle, de s'y tenir, d'y persévérer, et c'est là qu'il y a aussi un appel très, très fort à vivre pleinement, ce à quoi nous croyons, voilà, de l'amour du Christ.
Thank you. Plaisance, à Gourdon, 104.8.
Voilà, nous sommes sur le plateau de notre bien commun avec Monseigneur Camiade qui nous parle de la liberté religieuse. Alors, Monseigneur, le Concile de Vatican II déclare donc que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Certaines personnes se sont interrogées sur le bien fondé de ce propos puisque le magistère, en la personne de Pie IX, s'était prononcé contre la liberté religieuse. Que répondre à ces personnes ?
Alors, c'est une question très complexe sur le plan historique. Je pense que vous aurez l'occasion de revenir dessus pour comprendre dans quel contexte aussi Pie IX s'était exprimé contre la liberté religieuse comprise un petit peu comme, alors on dit quelquefois liberté d'indifférence, mais c'était dans ce contexte de la crise, ce qu'on appelait la crise moderniste, où il y avait une sorte de relativisation du mystère du Christ, du contenu de la foi, la foi des apôtres était remise en question comme référence fondamentale à la foi de l'Église, et c'était presque plus une problématique intra-ecclésiale à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur du peuple des chrétiens, qu'une problématique sociale comme on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que il s'agit de défendre le droit de vivre sa religion même dans une société qui n'est pas chrétienne. On peut dire aussi, pour répondre à cela, qu'il y a vraiment une tradition très ancienne fondamentale d'une liberté du cœur de l'homme pour adhérer à la vérité, qui remonte au plus grand théologien. Il y a une tradition de l'Église, et je pense en particulier à saint Thomas d'Aquin, qui nous dit que finalement la vérité s'impose à l'esprit humain parce qu'elle est vraie. Et non pas par des contraintes extérieures. Et cette notion de liberté religieuse, elle rejoint exactement cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas adhérer à la vérité de la foi chrétienne autrement que par la conviction, que par la découverte que c'est vrai. Et donc c'est là que toute la liberté intérieure de l'homme est sollicitée pour adhérer pleinement à la vérité. Si je crois que ce que enseigne l'Église est vrai simplement parce qu'on m'a dit qu'il fallait le croire et que finalement ce serait quelque chose qui s'imposerait à moi de l'extérieur, sans que mon cœur y adhère, sans que mon esprit y adhère profondément, sans avoir perçu dans l'expérience que de la joie. Saint Thomas parle aussi d'une joie de celui qui est en contact avec la vérité, la joie intérieure de celui qui est en contact avec la vérité et qui permet de reconnaître cette vérité, et la vérité de l'Évangile se reconnaît de cette manière-là, et on ne peut pas devenir pleinement chrétien sans cette liberté. Et c'est pourquoi pour l'Église finalement c'est quelque chose d'assez fondamental. L'adhésion à la foi se fait de l'intérieur et avec tout l'investissement de la liberté de conscience, de la liberté de la personne. Et cette manière de voir est très traditionnelle et elle consonne très bien avec l'idée de défendre la liberté religieuse, même si il faut surtout pas interpréter cela comme un relativisme, une manière de dire que là, finalement chacun a sa vérité, que toutes les vérités se valent, que toutes les vérités sont sur le même plan, que toutes les religions. C'est un petit peu aujourd'hui une tendance qui existe dans notre société où on entend quelquefois dire au fond toutes les religions ultimement conduisent sur le même chemin. C'est peut-être pas si sûr que ça, c'est un peu vite dit d'affirmer cela, et on se rend bien compte que en fait en pratique c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que toutes les religions ne contiennent pas des parcelles de vérité. Alors, en parlant du dialogue interreligieux, vous aurez l'occasion de le redire, mais et justement dans chaque religion sans doute il y a des lieux d'expérience de cette joie dans le contact avec la vérité, mais toutes les religions ne suivent pas exactement le même chemin, et l'Église ne défend pas du tout l'idée qui est parfois quand même à avancer dans notre société, dans notre culture, qu'il y aurait la possibilité d'avoir une religion une méta-religion qui rassemblerait toutes les religions un jour. voilà, c'est pas possible. Le contact, la recherche de la vérité est plus exigeante que cela.
D'accord. Quand le magistère déclare, toujours dans la déclaration Dignitatis Humanae, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, tel que l'on fait connaître la parole de Dieu, et nous sommes donc là dans la religion judéo, dans le genre judéo-christianisme, hein, et la raison elle-même. Donc on intègre la raison, et on intègre un principe d'édification de la société humaine, non explicitement basé sur la foi chrétienne, mais aussi sur la raison. Alors, je bascule un peu rapidement, mais un peu plus loin, il y a écrit « Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil ». Alors, on peut se demander, est-ce que le fait que ce droit soit un droit civil est gênant ?
Ben, en fait, c'est exactement le contraire. Mmh. C'est justement parce que c'est d'abord un droit civil que l'Église le défend. Elle le défend comme un droit de la société. Ce serait dire à l'intérieur de l'Église, à des chrétiens, après tout, vous avez le droit d'être musulman si vous voulez, ou d'être juif, ou d'être... ça n'aurait pas de sens. Par contre, dire à la société, vous devez respecter le droit de la liberté de culte, le droit de la liberté religieuse pour tout homme, parce que ça fait partie de la dignité humaine, ça a du sens pour l'Église. Voilà. Et c'est dans ce sens qu'elle défend la liberté religieuse.
Beaucoup prétendent pouvoir vivre en étant parfaitement souverain sur eux-mêmes, et par conséquent, dans notre société, le pratiquant qui se soumet à un être transcendant est mal compris aujourd'hui. On ne lui reconnaît plus une autonomie complète. Certains voient en lui un être infantile. Alors l'homme qui cherche à se soumettre aux vérités religieuses, et nous avons insisté sur le fait à l'importance de chercher la vérité et de s'y tenir une fois que l'on l'a reconnue, eh bien celui qui se soumet aux vérités religieuses auxquelles il croit perd au regard d'un grand nombre une certaine respectabilité. Et c'est ce qu'avait souligné le pape François après les attentats de janvier 2015. Hein. Il avait rappelé que, évidemment, Dieu, tuer au nom de Dieu est une aberration. Mais il avait aussi constaté que tant de personnes parlent mal des autres religions, s'en moquent, jouent avec la religion des autres. Voilà. Il avait regretté cela. Alors ce mouvement que l'on pourrait presque appeler une contre-culture à l'encontre de la religion, est-il compatible avec la liberté religieuse ?
Oui, je pense que ce rejet de la violence dans les religions, en fin de compte, qui peut amener un certain nombre de nos contemporains, en fait, une allergie, un rejet formel des religions, ça peut être une étape, en fait, une étape intéressante, un peu comme la crise d'adolescence, hein, de la société, une société qui veut grandir en tuant le père. Alors voilà, oui, le Dieu transcendant qui nous obligerait à un certain nombre de choses qui sont pas forcément belles. Enfin, c'est ça qui est rejeté. Et peut-être que cette image écrasante du Dieu père qui écrase, qui empêche de vivre et justement de s'accomplir. C'est quelque chose qui est... C'est une étape à vivre. Et je crois que face à cette réaction assez importante dans notre société, nos contemporains réagissent de cette manière-là. Voilà, ils considèrent le croyant comme un être servile, soumis, etc. Le message que le pape François a mis en avant, en particulier pendant le jubilé de la miséricorde, mais c'est pas terminé, la miséricorde de Dieu est toujours valable, est un message particulièrement pertinent. Hein, c'est-à-dire, c'est un autre visage du Père miséricordieux, la miséricorde de Dieu qui peut ouvrir une porte, y compris à l'homme moderne, en particulier l'homme moderne, dès qu'il commence à se rendre compte que ces progrès le rendent un peu égoïste, qu'il les conduit à détruire parfois son entourage ou son environnement, et se replacer devant le mystère de la miséricorde de Dieu. Ben voilà, je pense que cette étape un peu de rejet que nous voyons de manière assez fréquente autour de nous, c'est une étape un peu d'adolescence qui peut permettre de grandir et de progresser. Il y a possibilité d'aller au-delà, et notamment si on entend ce message de la miséricorde qui est contenu dans la foi.
Bien, merci Monseigneur, nous arrivons au terme de cette émission. Donc, je rappelle qu'il y aura deux autres émissions sur ce thème. Donc, nous allons développer le côté historique de la notion de liberté religieuse, en particulier à partir de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ensuite, nous allons parler du dialogue interreligieux avec le père Bertrand Cormier. Bonne fin d'après-midi.